Tout pour investir. Investir autrement.
On va parler du marché carbone. Car oui, il est l'objet de beaucoup de fantasmes et beaucoup d'histoires au cinéma et sur vos plateformes, ce marché carbone. Mais il nous concerne en tant qu'investisseur particulier. Pour le décrypter, Valentin Lautier est avec nous. Bonjour Valentin.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes le fondateur d'OMAIO. H-O-M-A-I-O. Pour ceux qui nous écoutent à la radio et en podcast. Avec vous, on va essayer de comprendre ce marché carbone, ou plutôt ces marchés carbone au pluriel, qui n'étaient pas accessibles aux investisseurs comme ceux qui nous écoutent, comme vous, comme moi, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Racontez-nous comment vous êtes tombé dedans.
Eh ben, complètement par hasard, en fait, j'ai un peu trébuché sur le marché en lisant un article dans un journal. Et en effet, vous avez dit ces marchés. Donc, le marché dont je parle est le marché européen, le système d'échange de quotas d'émissions européens, en fait. Et c'est un marché sur lequel on ne pouvait pas investir. Lorsque moi, je suis, j'ai trébuché sur ce marché, j'ai voulu accéder au marché, j'ai voulu acheter des permis carbone européens, voyant deux choses. La première était que c'était des permis, donc des actifs qui s'appréciaient quelque part par construction, et en même temps qu'ils avaient un impact réel sur les trajectoires d'émissions. Et donc j'ai voulu y investir et j'ai réalisé que je ne pouvais pas. Et donc j'ai créé OMAIO pour répondre à ce problème, c'est-à-dire permettre à des gens comme vous et moi d'accéder au marché carbone européen et ensuite à l'ensemble des marchés carbone régulés à travers le monde.
Valentin, vous allez nous expliquer pourquoi en tant qu'investisseur particulier, au masculin et au féminin, on pourrait être intéressé de mettre des billes sur ce marché carbone.
Pour plusieurs raisons. Comme je l'ai dit, c'est un marché qui est régulé, qui est mis en place par l'Union européenne, donc par des juridictions, qui organisent la décroissance de l'offre, c'est-à-dire il y a de moins en moins de permis disponibles dans le temps. C'est un actif qui est donc déflationniste et qui, du coup, par construction, s'apprécie dans le temps. Donc, si on regarde les 10 dernières années, c'est un marché qui a fait plus de 25% par an en moyenne en termes de performance. Donc, c'est intéressant. C'est aussi le pilier de toute la stratégie climat de l'Union européenne. Donc, c'est un marché qui a un impact direct, réel, sur les trajectoires d'émissions. Et donc, si on souhaite à la fois investir dans des actifs liquides avec une faible corrélation et qui s'apprécient, mais aussi avoir un impact sur les émissions, c'est un super actif. Et peut-être un dernier point, on l'a dit, c'est le pilier de la stratégie climat de l'Union européenne, c'est un sujet qui nous concerne tous, et pour autant, c'est un marché qu'on connaît mal, dont on parle assez rarement, et je pense qu'il y a un intérêt politique et un intérêt social à permettre à ceux qui sont les premiers concernés, c'est-à-dire les individus, à participer à ce marché.
Il faut dire que pour préparer cette interview, j'ai regardé un petit peu des éléments disponibles sur le marché du carbone, notamment sur les sites de l'Union européenne. C'est assez cryptique. Rien n'est fait pour évangéliser, démocratiser, il faut choisir le bon nom, le bon verbe, ce marché. On a l'impression que c'est un marché très technique, qui est obscur. Le fait que ce soit en plus, géré par l'Union européenne ne donne pas forcément beaucoup d'envie aux investisseurs particuliers. Pourquoi on y va ? Vous nous parlez de rendement. Est-ce que le rendement peut être si intéressant qu'on y va les yeux fermés ?
Alors, on n'y va pas les yeux fermés. Je pense qu'il y a peu d'actifs dans lesquels on va les yeux fermés. C'est en effet un marché un petit peu technique, assez peu connu, sur lequel il n'y a pas énormément d'informations disponibles, ou en tout cas, il y a une certaine technicité, une certaine opacité. Donc, on y va en s'informant d'abord. Et c'est aussi une des raisons d'être d'OMAIO, c'est le rendre accessible, c'est-à-dire le rendre intelligible. C'est un marché qui couvre 1,5 milliard de tonnes d'émissions, 40% des émissions européennes, qui couvre à peu près toutes les industries européennes, qui couvre le transport maritime, une partie du transport aérien. Donc c'est un gros marché. Et pourtant, comme vous dites, il est complexe, il est un petit peu opaque, il est cryptique. Et du coup, si on y va, c'est tout d'abord en s'informant sur le marché.
Soyons bien pédagogiques. Ce qu'on achète quand on investit sur ce marché, ce sont des permis carbone, ce sont des bouts de quotas, des quotas en fait. Et ça prend quelle forme ? Ça occupe quelle place dans un portefeuille ?
Alors, c'est exactement ça. On achète des permis carbone. Donc, ces permis sont émis par l'Union européenne et doivent être détenus, puis restitué par l'ensemble des industriels assujettis à la fin de l'année en fonction de leurs émissions. La quantité totale de permis disponibles sur le marché diminue année après année et ce que nous, on propose, c'est aux investisseurs particuliers d'accéder à ce marché. Donc nous, on va détenir des permis carbone dans un compte de permis. Alors, ce n'est pas un compte bancaire, ce n'est pas un compte titre, c'est un compte de permis. Et la forme que ça prend, bah, c'est celle de ces permis. Alors, quelle place dans un portefeuille ? Ça reste un actif, encore une fois, assez peu connu. Donc, c'est un investissement alternatif. On ne va pas placer tout son portefeuille dedans.
De la pyramide patrimoniale, on est dans l'étage diversification.
Exactement. Et d'ailleurs, c'est un super produit de diversification parce que c'est un actif qui est liquide et qui a une très faible corrélation aux autres grandes classes d'actifs. Donc, pour un investisseur qui cherche à diversifier son portefeuille en investissant dans un produit plutôt de long terme, qui s'apprécie sur des temps longs, qui a une forte volatilité, il faut le rappeler, sur des temps courts, et qui a un impact réel sur les émissions, c'est un super produit d'investissement.
Vous nous parliez de rentabilité. La valeur de ces permis carbone, sur 10 ans, elle fait plus 25%. Est-ce que vous pouvez nous dire la même chose avec d'autres mots ?
Il y a 10 ans, le permis était autour de 4 euros, je crois. Aujourd'hui, il est, alors il était il y a quelques jours autour de 60. Là, il est à 55-56. C'est là où je disais qu'il y a une volatilité forte à court terme. Mais grosso modo, ça a fait x10 en 10 ans. Donc, plus 25% par an en moyenne.
Qu'est-ce que cette performance dit de la stratégie climat de l'Union européenne ? Quelle est la corrélation entre les deux ?
Eh bien, qu'elle fonctionne. Parce que, en fait, plus le permis est élevé, plus les industries assujetties, soumises par le règlement européen à ce marché, sont incitées pour décarboner. En fait, il faut voir le niveau de prix comme une sorte de point d'arbitrage entre la décision d'investir dans les solutions de décarbonation ou la décision d'acheter et de restituer des permis. Et donc, tout le jeu, tout l'objectif, c'est de faire en sorte que les permis augmentent progressivement.
Le futur de ce marché du carbone européen dont on parle, comment l'envisagez-vous ?
Alors, c'est un marché qui déjà a tendance à s'étendre. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de secteurs industriels qui y sont assujettis. Depuis le début de l'année, c'est le transport maritime et il y a d'autres extensions prévues. Il y a d'autres marchés, d'ailleurs, qui sont prévus également pour couvrir le transport routier, le chauffage des bâtiments, éventuellement l'agriculture. Et encore une fois, par construction, il faut que les prix augmentent pour que on ait une incitation de plus en plus importante à décarboner. Pour que ça ait lieu et pour que le marché continue à être efficace et à remplir ses promesses, il faut, à mon avis, qu'un grand nombre de personnes s'y intéressent, non seulement politiquement, parce que ça nous concerne tous, mais aussi financièrement, pour permettre à une meilleure découverte du prix, une meilleure efficience du marché, avec une plus grande pluralité des acteurs qui agissent sur ce marché.
À vous entendre, Valentin, c'est pas tant un marché d'investisseurs, c'est un marché de citoyens, en fait.
Exactement.
De gens concernés.
On pourrait le dire comme ça.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour plus promouvoir la stratégie climat européenne et s'assurer, à titre de citoyen et d'investisseur, qu'elle fonctionne bien ?
Je pense qu'il faut continuer à être intransigeant avec l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les institutions, les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques, les industriels, et peut-être un petit peu plus indulgent avec les citoyens, les particuliers. Je trouve que parfois on met le curseur entre intransigeance et indulgence au mauvais endroit. Et puis il faut bien sûr s'intéresser, comprendre, accéder à ces marchés, y participer, pas forcément financièrement, mais au moins intellectuellement et politiquement, pour pouvoir peser sur les décisions qui sont faites. C'est un marché qui existe depuis 20 ans, qui a eu plusieurs réformes, et pour autant, on n'est pas du tout concerné, en tout cas on y participe très très peu dans l'arène financière ou politique.
Voilà, vous participez à rendre ce marché accessible. On parle d'un produit financier qui permet d'investir sur ce marché. Le produit en soi, c'est un permis. C'est un permis carbone, un permis, un bout de quota d'émission, pour mal le dire, un quota d'émission. Dernière question, est-ce que vous bénéficiez, en termes de notoriété, tout ce qui est fait autour de l'arnaque à la taxe carbone ? Pardon de vous poser la question comme ça.
Alors, je ne sais pas si on en bénéficie. C'est vrai que ça popularise un petit peu l'existence de ce marché. Mais beaucoup de choses ont changé depuis. C'était il y a 15 ans. C'était une arnaque à la TVA, plus qu'à la taxe carbone. Même si
dans le titre, le mot TVA n'est pas resté.
Non, voilà. C'est bien dommage. Et puis en plus, c'est même pas une taxe. Donc, mais quelque part, ça permet de faire une sorte de icebreaker, d'ouvrir la conversation. Et assez rapidement, vous l'avez dit au début, il y a beaucoup de fantasmes à déconstruire, mais au moins, il y a une sorte de familiarité qui existe autour du marché. Je ne sais pas si on en bénéficie, mais en tout cas, c'est vrai qu'on en parle souvent.
Merci beaucoup, Valentin Lottier, le fondateur de Omayo,